Personnage insolite sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous, au micro Elisabeth Couget.
Bonjour à tous et bonjour Elisabeth.
Zdravstvuyte, Christine. Ce qui veut dire bonjour madame en russe, car pour rencontrer notre personnage insolite d'aujourd'hui, nous allons en Russie.
Et dans la Russie du 19e siècle.
Plus précisément à Taganrog, dans une bourgade du sud de la Russie, au bord de la mer d'Azov, où est né en 1860 Anton Tchekhov. Je signale juste que c'est pas très loin de l'Ukraine.
D'accord. Et notre personnage insolite, Anton Tchekhov, qui est célèbre pour ses nombreuses nouvelles et pour ses pièces de théâtre, que l'on continue à jouer à travers le monde.
Alors le père d'Anton Tchekhov, Paul Yegorovitch, était un ancien serf libéré, tenait une boutique misérable pour subvenir aux besoins de sa nombreuse famille. Alors les souvenirs d'enfance d'Anton Tchekhov étaient douloureux, voilà ce que l'on disait. Mon père commençait à faire mon éducation, ou plus simplement à me battre, quand je n'avais pas encore 5 ans. En me réveillant chaque matin, ma première pensée était « Serais-je battu aujourd'hui ?»
Paul Yegorovitch avait une extrême piété, il faisait ses dévotions tous les jours, mais ceci accentuait curieusement son penchant à la tyrannie domestique.
Oui, il était persuadé d'agir toujours selon la volonté de Dieu. Il imposait à toute sa famille une discipline de fer qui tremblait dès qu'il élevait la voix. Paul Yegorovitch battait toute sa famille, et après la correction qu'il leur infligeait, il devait, selon la coutume, baiser la main paternelle. Pourtant, le père aimait ses enfants, enfin, à sa façon. C'était pour inculquer, disait-il, les saintes vérités à des gamins sans cervelle.
Plus tard, Tchekhov dira mélancoliquement « Il était normal d'être traité de la sorte. Il faut savoir que notre grand-père, lui-même, était battu par le seigneur du domaine et même par les derniers des fonctionnaires. » Et notre père, battu à son tour par notre grand-père, c'était donc notre tour d'être battu.
Et voilà, c'était une philosophie. Alors il disait aussi, donc Tchekhov, dans son livre intitulé « Dans mon enfance, je n'ai pas eu d'enfance ». Du matin au soir, en fait, le petit Anton vivait comme les autres, dans la hantise d'une réprimande, penché sur sa grammaire latine. Il priait pour que la journée s'achève sans éclat. Alors quand il ne le battait pas, son père l'envoyait au magasin glacial où il devait tenir la caisse jusqu'à 11 heures du soir.
Et du coup, son père l'empêchait de faire ses devoirs. Et lors de ses petites classes, Anton était plutôt un élève médiocre.
En plus, lorsque les enfants ne travaillaient pas dans le magasin, le père les obligeait à chanter. Ils avaient une jolie voix, alors ils chantaient des chants religieux en formant une chorale. Leur père les réveillait 2-3 heures avant les cérémonies, qui commençaient quelquefois très tôt, pour qu'ils se préparent d'âme et corps, comme il disait, au service divin. Tchekhov dirait de cette époque « J'ai été élevé dans la religion, j'ai chanté dans un chœur, lu les apôtres et les psaumes à l'église, assisté aux matines, servi la messe, sonné les cloches et aujourd'hui, je n'ai plus du tout de religion. » Voilà, notre enfance, à mes frères et à moi, était une véritable souffrance.
Et pour sortir de cette vie douloureuse, les enfants réussissaient à s'échapper en créant de petites scénettes.
Qui présentaient à la maison quand leur père n'était pas présent, devant les voisins ou devant la maman. Ces pauvres enfants arrivaient quand même à rire et à faire rire. Ils étudiaient malgré leur vie bien triste. Le père voulait faire d'eux, en fait, des bons commerçants. Il pensait qu'avec les commerces, on va gagner de l'argent. Alors il les a inscrits dans une école tenue par des Grecs. Mais en fait, ils perdaient leur temps et il n'y avait aucun résultat. Et finalement, ils ont quand même rejoint une école russe classique qui, voilà.
Et c'est d'ailleurs Anton qui était le plus studieux des 5 frères. Quant à sa sœur Marie, elle n'allait pas à l'école. C'était tout à fait normal à cette époque pour une fille en Russie.
Ah oui, alors ils apprennent finalement à partir de ce moment-là, le russe bien sûr, le français, le latin, etc. C'est une vie qui était sombre, mais éclairée de temps en temps part des vacances chez leur grand-père qui était le régisseur de la comtesse Platov à Kniajaïa dans la steppe de Donetsk.
C'est ça, le grand-père paternel donc des enfants Tchekhov.
Oui, tout à fait, c'est lui qui est né serf d'ailleurs, mais rusé, intelligent, travailleur, économe, il a réussi à se faire nommer régisseur de la sucrerie de son maître et il a pu du coup racheter sa liberté. Alors, ayant appris à lire, à écrire et à compter, plus tard, après avoir obtenu la liberté pour ses enfants, il a exigé d'eux la même chose, puisqu'il considérait qu'ils sont libres grâce à lui, ils doivent donc lui obéir.
Et les enfants aimaient par-dessus tout ces vacances chez leur grand-père, où pour quelques semaines, leur vie changeait totalement.
Alors, durant ces vacances, il n'y avait pas la boutique glaciale, pas les corrections du père, qui est resté heureusement à Taganrog, pas la chorale obligatoire à l'aube, et rien que le voyage en allant vers la steppe était un enchantement. Anton s'en souviendra tout au long de son existence. Là-bas, les enfants, même en aidant leur grand-père dans les travaux du domaine, étaient heureux car ils étaient libres.
Tchekhov, mis à part ses vacances libératrices, n'a gardé de son enfance que de bien tristes souvenirs.
Et de ses souvenirs et de Taganrog, Tchekhov parlera plus tard. Il a dit de son lieu de naissance, « La ville me faisait le même effet que si j'avais vu Pompéi ou Herculanum. Les rues étaient désertes et la fainéantise générale dans toute la ville. » En fait, à cette époque, Taganrog n'était qu'une cité moribonde.
Et pourtant, c'est là que toute l'enfance d'Anton s'est déroulée et a enrichi ses souvenirs tout au long de sa vie d'écrivain.
Il a 13 ans lorsqu'il découvre le théâtre. C'est une troupe de comédiens ambulants qui vont lui offrir ses premiers émois de spectateur. Et peut-être, c'est cette première rencontre avec le monde du spectacle que plus tard l'inspirera lorsqu'il écrira ses célèbres pièces de théâtre qui lui apporteront gloire et aisance financière.
Ensuite, la boutique déjà si mal tenue par le père marche tellement mal qu'il doit déclarer sa faillite. Et étant redevable à beaucoup de monde, il choisit la fuite.
Et oui, il s'est enfui littéralement en pleine nuit pour Moscou, où ses deux fils aînés vivaient déjà bien misérablement depuis quelque temps. Ensuite, sa femme et les autres enfants iront les rejoindre.
Sans Anton, qu'ils ont laissé à Taganrog, seul, livré à lui-même.
Et oui, il ne devait dorénavant compter que sur lui-même pour survivre, alors qu'il n'a que 16 ans, et pour subvenir à ses besoins, il donne des leçons et avant toute chose, il veut continuer à aller au lycée, obtenir son baccalauréat et aller à Moscou à son tour.
Non seulement pour rejoindre sa famille, dont la présence lui manquait quand même terriblement, mais surtout pour apprendre la médecine.
Et c'est ce qu'il a décidé dès sa première visite à sa famille, 2 ans auparavant à Moscou. Il est tombé sous le charme de cette ville et depuis il n'avait qu'une hâte d'y retourner pour y vivre avec sa famille. Car, en dépit des nombreux griefs qu'il nourrissait contre ses parents, il leur pardonnait tout en souvenir des heures d'intimité familiale. Alors, lui qui était distrait dans les petites classes, il est devenu sérieux dans les grandes, tant il avait envie de partir pour Moscou.
Alors, en attendant de réussir ses examens et de partir à Moscou, où leur père continuait à corriger sa famille comme avant, aux grandes dames des voisins de palier, Anton travaille et lit énormément.
Anton, lors de sa visite aussi à Moscou, était consterné par leur déchéance et ceci a encore plus renforcé sa volonté de leur venir en aide en devenant médecin et de retrouver cette ville aux bâtiments exceptionnels comme le Kremlin, n'est-ce pas Christine,
toi,
qui allait, la cathédrale Saint-Basile ou le théâtre Bolchoï. Enfin, la dernière année du lycée arrive où Anton, tout en travaillant pour réussir ses examens de fin d'études, commence à écrire de courts textes comiques sous le pseudonyme de Tchekonté.
Comme prévu, il réussit ses examens et son rêve se réalise enfin le 6 août 1879. Anton Tchekhov part pour Moscou.
Il est très heureux et ce sentiment qu'il habite ce jour-là, durant le voyage, le transmettra dans la bouche des 3 sœurs, les héroïnes d'une de ses très grandes pièces de théâtre, qui avaient autant envie que lui de fuir la campagne et d'aller à Moscou. Laissons donc Anton Tchekhov rêver à sa future vie moscovite dans le train qui l'amène à Moscou, tandis que nous écouterons un peu de musique. Nous sommes à Moscou, en août 1879, où Anton Tchekhov vient d'arriver pour retrouver sa famille et y faire ses études de médecine.
Ses frères, qui l'accueillent à la gare, le reconnaissent à peine, tant il a changé en 2 ans.
Alors, depuis sa dernière visite, le gamin joufflu est devenu un grand jeune homme mince, aux joues pâles, vêtu d'un costume de ville élimé, portant des cheveux longs et une légère moustache qui ombrait sa lèvre. Ainsi, il était méconnaissable pour sa famille, qui lui fit fête. Anton était heureux, oubliant ses soucis qui le guettaient dans sa future existence.
Pourtant, l'avenir ne paraissait pas très joyeux. La famille vivait dans un taudis obscur. La lessive qui séchait sur les cordes maintenait une humidité constante, âcre, malsaine. 10 personnes s'entassaient dans cette cave mal aérée.
Oui, parce qu'il n'y avait pas que la famille. Souvent, il y a des visites
mais oui, de la famille russe.
Au large
sens du terme.
Dans toute sa beauté. Alors, Anton, du jour au lendemain, prend les choses en main, devient le chef de clan, mais pas à la manière de son père. Au contraire, tout en douceur. Il commence par sortir sa famille de la cave, les installer au 2e étage, dans la lumière, et petit à petit, leur situation changera et s'améliorera.
Il envoie ses petits frères au lycée, qu'ils ont abandonné depuis leur départ de Taganrog des années plus tôt.
Même sa sœur, Marie, est devenue lycéenne. Anton a pris la direction de la faculté de médecine, dont les bâtiments vétustes le décevaient, et un peu ses camarades aussi, plus occupés par la politique que de leurs études. Anton ne s'en mêlait pas, puisqu'il n'est pas là pour se révolter.
Et surtout, il ne se voulait pas se révolter contre Alexandre II, qui était tout de même le premier tsar russe libéral, qui avait par exemple émancipé les serfs.
Et a aboli les peines corporelles et surtout a promis une constitution qu'il n'a pas eu le temps de réaliser, hélas, puisqu'un groupe d'illuminés l'avait tué en le faisant déchiqueter 2 ans après l'arrivée d'Anton à Moscou.
La municipalité de sa ville natale lui donne une bourse d'études, mais c'était vraiment insuffisant.
Surtout qu'Anton doit entretenir toute sa famille. Alors, il écrit des nouvelles tout en étudiant sans cesse. Il écrit aussi des chroniques de la vie moscovite pour lesquelles il glane des informations dans les salles d'audience des tribunaux, dans les cafés littéraires et dans les coulisses de théâtre. Déjà le théâtre, n'est-ce pas?
Oui.
Alors ainsi, Anton, à peine 22 ans, avait une connaissance intime de pratiquement toutes les couches de la société russe. Sa tête fourmillante d'images de types originaux observées à droite et à gauche qui n'attendaient que prendre forme sous la plume d'Anton.
La vie d'Anton n'était pas facile avec toute sa famille qui comptait sur lui. Alors il compose, il partage son temps entre le journalisme et les études de médecine.
Hélas, ses écrits ne font pas l'unanimité parmi ses pairs, mais ça nourrit la famille. Heureusement, ses études de médecine ont beaucoup plus de succès et le 25 juin 1884, il devient le docteur Anton Tchekhov. Bien sûr, les débuts sont difficiles, mais leur situation financière s'améliore et bientôt, Anton peut même acheter quelques meubles, un tapis, un piano et engager 2 servantes.
Bref, il s'installe dans un confort bourgeois. Il se crée une honorabilité tranquille qui le comble après tant d'années d'humiliation. Il venait d'avoir 25 ans. Il pensait avoir définitivement triomphé de son passé misérable.
Il était heureux. Mais des soucis de santé commencent à l'inquiéter, tout en les cachant à son entourage et à lui-même. Mais les faits étaient là. Il tousse, il crache du sang. On pense bien sûr immédiatement à la tuberculose, mais Tchekhov pratique la politique de l'autruche. Il ne veut même pas envisager le soupçon de cette maladie mortelle et pose surtout pas la question à un confrère, de peur d'entendre le verdict. Il préfère vivre comme si tout allait bien. Puisqu'il a les moyens, il loue un datcha à l'extérieur de Moscou pour partir en vacances avec toute sa famille et surtout pour y retrouver l'air de la campagne qui lui manquait tant.
Mais ceci n'est pas suffisant pour améliorer sa santé, car après et même pendant les vacances, il continue à tousser, tout en continuant sa vie d'avant, donc à écrire, à faire de la médecine, et puis accompagné de fêtes arrosées de vodka, le tout dans la fumée épaisse à couper au couteau.
À la russe, n'est-ce pas? Alors, il faut dire qu'il est plutôt mal entouré. Son frère Nicolas, peintre très talentueux, est un alcoolique incontrôlable. Anton a plus de succès avec Alexandre, son aîné, qu'il a réussi à diriger vers le droit chemin et qui écrit aussi. D'ailleurs, c'est bien lui qui a aidé Anton à faire ses débuts d'écrivain et faire publier ses écrits alors qu'il n'était que lycéen. Maintenant, il vit à Saint-Pétersbourg, loin de Moscou. Mais durant les années, les frères et leurs amis buvaient beaucoup en faisant les fêtes bien arrosées qui ont considérablement détruit la santé d'Anton.
Tout ça ne l'empêche pas d'écrire et le grand journal Le Temps Nouveau de Saint-Pétersbourg, qui depuis les années d'études de Tchekhov fait paraître ses écrits, lui propose d'éditer un recueil de ses contes.
Alors pour pouvoir écrire, Anton part vers le sud.
8 ans après avoir quitté sa ville natale, il retourne à Taganrog.
Et là, il retrouve les impressions et les souvenirs de son enfance. Tout n'est pas agréable, mais tous ses anciens amis l'accueillent à bras ouverts. Il est reçu comme l'enfant prodige. Et cette hospitalité rustique lui fait chaud au cœur, ainsi que la proximité de la steppe qui lui manquait vraiment à Moscou. Alors durant ce séjour, non seulement il écrit les contes attendus par les Temps Nouveaux, le journal qui veut le faire paraître, mais au retour à Moscou, c'est Ivanov, sa première pièce de théâtre qu'il écrit. Ivanov représente le désarroi des intellectuels devant la dégradation de la situation sociale en Russie. Mais ni les acteurs, ni le public n'ont compris la profondeur de la pièce.
Et cette incompréhension le blesse. Alors il retravaille son Ivanov qui sera finalement un succès, tout comme une autre pièce écrite en même temps, La Steppe. En écrivant La Steppe, Tchekhov se sentait heureux comme un gourmet qui déguste une bécasse, avec délectation et sans hâte, c'est du moins ce qu'il dit.
Il disait à ce propos, « Pendant que j'écrivais, j'avais l'impression que cela sentait autour de moi l'été et la steppe. Il était content de son travail et disait, « C'est mon chef-d'œuvre, je serais incapable de faire mieux. » Mais, et surtout qu'il n'est pas le seul à penser cela, car on disait de lui, « C'est un écrivain du tout premier ordre qui vient de faire son apparition en Russie. Le style d'écriture de la steppe est très dépouillé et cela rappelle certaines pages de Pouchkine. C'est un poème, mais en prose. Tchekhov est ravi, mais l'idée de retourner dans son appartement au milieu de sa famille l'insupporte. Alors, il n'a qu'une envie, fuir.
Fuir, c'est important dans sa vie.
Oui.
Il veut s'éloigner de l'atmosphère étouffante du clan Tchekhov et s'installe dans une villa spacieuse au milieu d'un parc à l'anglaise, très romantique, en Ukraine.
Comme il n'aime pas vivre seul, vous voyez, Tchekhov est rempli de contradictions, car il fuit sa famille, mais il n'a de cesse que de connaître du monde et il apprécie leur compagnie. Alors il est charmé par les propriétaires de la villa et des paysans ukrainiens dont il aime la gaieté, dont il a besoin moralement car la maladie le ronge, et d'où cette envie de changer de décor et d'entourage.
Oui, c'est comme s'il avait hâte de voir le monde entier avant de disparaître. Comme s'il était persuadé que le repos, la lumière, la santé l'attendaient là où il ne se trouvait pas, donc ailleurs.
Et c'est ainsi que 2 mois plus tard, il partait brusquement pour la Crimée, il retrouvait les amis, ensuite il repartait en Ukraine, avant de retrouver Moscou, où son mal reprend de plus belle et les hémorragies deviennent de plus en plus violentes. Pourtant, Tchekhov continue à refuser de reconnaître sa maladie. Peut-être, par ce déni, il pense pouvoir mieux savourer le temps qu'il reste à vivre. Mais sa famille querelleuse, quémandeuse, l'empêche d'aller de l'avant et ce sont surtout 2 de ses frères qui continuent à lui donner du souci. Et avant toute chose, Nicolas.
Nicolas que l'alcoolisme a détruit tout à fait et dont une fièvre typhoïde a encore plus compliqué les problèmes pulmonaires, son état prend des proportions de plus en plus inquiétantes.
Tchekhov assiste impuissant à la dégradation de son état et ne peut s'empêcher de penser à son propre cas. Devant ce moribond capricieux, une prémonition funèbre l'écrase. N'assiste-t-il pas à une préfiguration de sa propre fin? Mais c'est Kolia.
C'est-à-dire Kolia, le diminutif de Nicolas.
Qui mourra d'abord. Sa mort va attrister toute la famille. Tchekhov se sentait à la fois honteusement soulagé et mortellement triste. Encore les contradictions, n'est-ce pas?
Oui.
Puis, il s'est remis à écrire et réalisera une de ses pièces de théâtre la plus célèbre.
Ah, laquelle? Mais laissons Tchekhov écrire sa pièce qui lui apportera la célébrité. En attendant, nous vous proposons une nouvelle pause musicale.
Alors, vous écoutez Radio Rancière et notre émission Personnage insolite qui aujourd'hui est Anton Tchekhov, le célèbre écrivain russe dont la courte vie était riche en création. Alors, avant la pause musicale, Tchekhov venait d'écrire sa célébrissime pièce Oncle Vania, qui pourtant d'abord ne fait pas l'unanimité, en particulier le grand Tolstoï ne le comprend pas, mais avec le temps, cette pièce rejetée à ses débuts deviendra une des plus célèbres pièces jouées au monde. Et ce qui est le cas encore aujourd'hui.
Elle est moderne, en fait.
Oui.
À l'aube de ses 30 ans, Tchekhov se remet en question. Sa vie lui paraît, malgré tous ses succès, inutile. Et il décide d'aller voir de près la vraie souffrance. Il veut partir en Sibérie pour rencontrer les forçats sur l'île de Sakhaline. Compte tenu de son état de santé, cette expédition lui paraît au-dessus de ses forces. Mais l'envie le tenaille et il ne pense plus qu'à cela.
Alors, avant son départ, il prend tous les renseignements au sujet des forçats, tout en continuant à écrire ses nouvelles pour compléter le 7e volume qui est paru au même moment. Il attendra le dégel des rivières de la Sibérie pour partir. Le 21 avril 1890, c'est le jour du départ. Chaque détour du chemin des merveilles durant ces 2 mois et demi de voyage à Sakhaline, où vivent 5 colonies pénitentiaires composées de forçats et de ceux qui, une fois leur peine accomplie, continuent à vivre là-bas comme des colons par obligation.
Tchekhov passe tout son temps avec les forçats, il se lie d'amitié avec eux, il découvre leur vie monstrueuse et prend quelques 10 000 pages de notes en décrivant leurs souffrances inimaginables, en prévision d'écrire un livre qui va dénoncer l'horreur de ces colonies de forçats.
Le séjour devenait de plus en plus épuisant pour Tchekhov et ses semaines à Sakhaline n'ont fait que détériorer sa santé. 6 mois après son départ de Moscou, il reprend le chemin de retour, mais avec un grand détour, en contournant les côtes de l'Asie, il découvre Hong Kong et sa superbe baie. Singapour lui paraît triste à pleurer. Par contre, plus loin, Ceylan, par contre, lui semble un paradis terrestre, avec ses éléphants, ses palmiers et ses belles femmes au sourire mystérieux. Ensuite, la vue du mont Sinaï, de Constantinople, l'émeut profondément. Et finalement, au bout de 7 mois et demi de voyage harassant, mais très riche, Tchekhov s'est retrouvé heureux parmi les siens qui l'attendent impatiemment.
Par contre, ses confrères avaient une attitude beaucoup moins sympathique, d'autant plus que Tchekhov, à son retour, lance une sorte de campagne de dons de livres scolaires à l'intention des malheureux enfants des forçats de Sibérie.
Alors, ce voyage en Sibérie, s'il apparaissait comme un exploit généreux aux admirateurs de Tchekhov, éveille des ricanements chez certains journalistes que Tchekhov ressentait dissimulés derrière les sourires envieux. Très déçu et blessé par leur comportement, il n'a qu'une envie, repartir vers l'Europe. Il part à Vienne, ensuite à Venise, à Bologne, à Florence, à Rome, à Naples. Il est émerveillé par l'Italie. Après, il passe par la France, Monte-Carlo le déçoit. Et par contre, Paris l'enchante. Il visite l'exposition, admire la Tour Eiffel.
Et avant de quitter Paris, Tchekhov découvre les peintres français. Il les trouve nettement inférieurs à ceux de Russie. Mais son opinion à propos de la France est positive. « C'est un peuple merveilleux, dit-il des Français. » Notait-il dans un de ses carnets de voyage.
Alors, au cours de ce voyage, à Sakhaline, il a vu l'abomination, en Occident, la quintessence de la civilisation, la Russie qu'il aimait tant, il l'imaginait entre les deux, mais il avait envie de finir le voyage, il voulait rentrer, et comme à Tolstoï, avait envie d'une maison à la campagne. Alors, dès son retour, il se met à la recherche d'une maison familiale et il en achète une à Melikovo, à 80 km de Moscou, où il s'installe avec toute sa famille. Et il est très heureux dans cette famille-là.
Oui, il est heureux, mais pour combien de temps? La bougeotte le reprend, sûrement bien vite, mais avant, il profite de sa maison, de sa joyeuse compagnie qui l'entoure, malgré la reprise de sa maladie. Et tout ça ne l'empêche pas d'écrire. L'île de Sakhaline commence à paraître en feuilleton.
Alors, on reconnaît dorénavant Tchekhov comme le premier prosateur russe et on commence à traduire ses livres. Et voilà, il aime sa maison de Melikovo où il passe pas mal de temps, mais au bout d'un certain temps, il repart. Cette fois-ci, il va à Yalta, ensuite encore en Europe. Enfin, voilà, il a la bougeotte tout le temps, là.
Ce comportement instable inquiète son entourage. À Melikovo, il écrit, il soigne les paysans et sa sœur Marie suit des cours de médecine voulant aider son frère.
Qui repart encore une fois. Cette fois-ci, il rend visite à Tolstoï et à Yasnaya Polyana, qui est une sorte de pèlerinage pour tous les écrivains russes. C'est après qu'il écrira sa fameuse pièce « La mouette » qui lui apportera la reconnaissance mondiale.
Il est très occupé, car en plus d'écrire, il continue sa collecte de livres pour les enfants, à faire construire des écoles aussi pour les enfants des Moujiks, les environs de Melikovo. D'ailleurs, après La Mouette, il écrira un long récit intitulé « Les Moujiks ».
Et bien voilà, et c'est à ce moment-là que son état de santé vraiment se dégrade. Il va enfin voir un médecin et il va se retrouver dans un hôpital.
À l'hôpital, son état s'améliore un peu, mais dorénavant, Tchekhov sait que ses années à vivre sont comptées. Il a hâte de se remettre pourtant à travailler.
Alors, mais il ne vivra plus à Melikovo, dont le climat ne lui convient vraiment pas. Il s'installe donc au bord de la mer à Yalta. Et pour quelques temps, voilà.
Il revient ensuite à Moscou. Il assiste à la nouvelle représentation de La Mouette et il rencontre Olga, une actrice, l'actrice principale de la pièce.
Et il tombe amoureux. Voilà. Lui qui a toujours refusé de s'engager, se sachant malade, il refuse de se déclarer. Et il travaille sur des nouvelles dont La Dame au petit chien qui restera dans les annales. Hein.
Oui, très beau. Sa pièce, Oncle Vania, est rejouée tandis que Tchekhov écrit Les Trois Sœurs. Olga fait tout ce qu'elle peut pour que Tchekhov l'épouse enfin et qu'il l'aime au grand jour.
Voilà, alors ça va quand même arriver, mais en cachette totalement. Ils se marient, ils s'en vont et leur voyage de noces se déroule dans un sanatorium où Tchekhov se fait soigner. Donc, et après ce voyage un peu bizarre, il rentre chez lui parce que Tchekhov est vraiment très malade. Il retourne à Yalta, tandis qu'Olga n'a qu'une hâte, retourner à Moscou, remonter sur scène.
Ce sera alors l'amour par lettre entre deux. Tchekhov est malheureux sans Olga et lui écrit de belles lettres d'amour jour après jour.
Alors lui qui travaille écrit enfin cette magnifique pièce qu'on attendions tous, La Cerisée.
Voilà.
Et à ce moment-là, il veut absolument, malgré le mauvais temps et l'hiver de Moscou, il veut absolument assister à la première lecture de la pièce.
La nouvelle de sa venue à Moscou se répand comme une traînée de poudre. Il est envahi de visites d'écrivains confirmés, mais aussi de jeunes auteurs prometteurs et de vieux auteurs ratés.
Alors, c'est le 17 janvier 1904, le jour du 44e anniversaire de l'auteur, que se déroule la première de La Cerisée. Les comédiens ont préparé une fête pour l'auteur, mais Tchekhov est tellement fatigué qu'il repart immédiatement à Yalta pour se reposer et il attend Olga.
Qui se décide enfin à se consacrer à son illustre mari. Malgré son état physique, Anton est toujours aussi beau, son visage fin, discret, élégant.
Bon, alors Olga enfin le rejoint et ils partent tous les deux et c'est le dernier voyage et c'est la fin. Puisqu'ils partent en Allemagne, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi l'Allemagne et la forêt noire, où en plein hiver il ne devait pas faire bien chaud. Il arrive à peine à respirer, tout le secoue et la fièvre l'anéantit totalement. Le médecin qui arrive à Tchekhov lui dit « Ich sterbe », je veux dire « je meurs » en allemand. Le docteur veut lui donner de l'oxygène, c'est trop tard, c'est pas possible. Finalement, il lui offre un verre de champagne. Et Tchekhov dit « il y a longtemps que je n'ai pas bu de champagne ». Il le boit et ensuite il se couche sur le côté et il meurt.
Voilà. Olga a pris toutes les dispositions pour que la dépouille de son mari soit acheminée jusqu'à Moscou le plus vite possible.
Et voilà, c'est une foule nombreuse qui suit le cercueil de Tchekhov jusqu'au monastère Novodevitchi,
où il repose.
Oui, il se repose toujours aux côtés de son père. Et il n'y a pas de discours. La famille est anéantie, hébétée de chagrin devant cette montagne de fleurs sous laquelle repose désormais Anton Tchekhov.
Notre personnage insolite que nous avions le plaisir de vous présenter aujourd'hui.
Sur les ondes de Radio Grand Ciel, où nous serons ravis de vous retrouver bientôt.
Au revoir.